Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Radio Foot. Nous allons entamer ensemble une semaine chargée. Elle est de retour, toujours aussi belle malgré ses grandes oreilles. Comme c'est le retour, on vous l'a laissé sur quelques secondes, la Ligue des Champions, ou plutôt sa musique. Les matchs du week-end faisaient donc office de répétition générale pour certains, ceux qui seront sur le pont demain et après-demain. Tottenham et Manchester City par exemple en première ligue, mais aussi et surtout le PSG et le Real Madrid. Les merengues se réveillent a priori au meilleur moment pour eux. J'espère que vous êtes bien réveillés également. Naïm Moniol, bonjour.
Salut Hugo, salut à tous.
Bonjour Hervé Penaud.
Bonjour à vous, quel bonheur d'être en votre compagnie.
Très bien réveillé, ça sent
toujours.
Bonjour Salim Bongali.
Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous.
Cédric Delivera est également avec nous, bonjour Cédric.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Le Paris Saint-Germain de son côté continue sa promenade de santé en Ligue 1, le championnat de France, où le feuilleton le plus intéressant est celui de la course au podium. Il est censé concerner trois équipes, mais l'une d'elles, Lyon, pour ne pas la nommer, donne l'impression de sérieusement décrocher. Pour nous, c'est tout l'inverse. Je peux dire qu'en coulisses, David Finzel et Guillaume Ploquin étaient au taquet, comme disent les jeunes, ou bien les moins jeunes. Radio Foot, c'est parti. Now Davis. That's a better ball, and there's Kane. And there's the breakthrough. 7-7 against Arsenal now for Harry Kane. Really good job. No chance for the Arsenal goalkeeper. Tottenham et ses supporters qui s'adjugent le derby du nord de Londres, qui dépose Arsenal dans la course au Big Four. Merci qui ? Merci Harry Kane, comme très souvent, trop souvent peut-être. On en reparlera. C'était l'un des faits majeurs de la 27e journée de Première Ligue. Le succès 1-0 de Tottenham face au grand rival Arsenal. Et peut-être, Salim Bangali, un message fort envoyé aux supporters de la Juventus Turin. La Juve, le prochain adversaire de Tottenham en Ligue des Champions, 8e de finale aller, ce sera demain.
Oui, mais c'est vrai que c'est même globalement la série de Tottenham qui, cette dernière semaine, montre que ça peut être un adversaire vraiment sérieux pour cette équipe de la Juve, parce qu'il y a eu donc cette victoire face à Arsenal. Il y a également eu des performances, que ce soit face à Liverpool, ce nul accroché et obtenu dans les dernières secondes à Anfield, également une victoire face à United. On est sur une série de performances, notamment au mois de janvier et même un petit peu avant, où on a un très bon United, un très bon Tottenham, quel lapsus, offensivement parlant, surtout grâce à Harry Kane, on en parlera, et puis aussi défensivement, une équipe plutôt solide qui concède peu surtout, d'opportunités. Ouais. Donc c'est vrai que quand vous avez tout ça, vous dites, bon, la Juve peut craindre, surtout que la Juve, il y aura quelques absences aussi en Ligue des Champions, donc oui, la Juve peut avoir peur de ce Tottenham-là.
Dernière défaite de Tottenham, le 16 décembre, qu'on ne perd plus du côté de Tottenham, cette montée en régime, cette montée en puissance, vous l'interprétez comment vous, Naïm Moniol?
Par un retour de la stabilité défensive, c'est une équipe qui a pris pas mal de pions fin 2017, un peu pendant le Boxing Day, puis depuis plusieurs semaines, on commence un petit peu à retrouver des clean sheets, une solidité défensive. Appuie toujours cet Harry Kane, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais c'est l'un des meilleurs joueurs de l'année 2017. Très sincèrement, un des meilleurs joueurs de toute la saison, tout championnat confondu. Il marque des buts, il pèse sur les matchs. Peut-être un peu trop seul, parce que si on va reparler des attaquants d'Arsenal, on peut aussi parler des ratés de Tottenham, de Dele Alli. Donc voilà, oui, Tottenham peut faire peur à la Juve quand on se rappelle que l'équipe a battu le Real Madrid en phase de poule. La Juve a quand même une grosse défense, c'est un but je crois sur les 17 derniers matchs, et à Tottenham il n'y a que Kane en tout cas qui arrive à être décisif, donc voilà, petit bémol quand même.
Hervé Penaud, votre avis sur cette équipe de Tottenham, est-ce qu'on peut commencer à en faire, non pas un favori, mais un rival sérieux face à la Juventus Turin, qui partira quand même légèrement favori, ne serait-ce que si on se fie à son expérience?
Tout est là. C'est-à-dire que je pense que ça va être leur vrai gros test pour Tottenham, parce qu'en championnat, ils sont largués. Il ne faut pas oublier qu'ils ne seront pas champions d'Angleterre quand même. Hein. C'était l'année, pourtant, on croyait qu'il y avait peut-être une possibilité. S'il y avait eu des surprises, pourquoi pas Tottenham? Finalement, ils n'ont pas été dans le coup. Hein, ils ont décroché assez vite. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec Naïm. L'important, c'était de trouver une solidité défensive. En fait, toutes les grosses équipes anglaises, ça a été un peu un des soucis. Liverpool, c'était le souci. Tottenham, ça l'a été longtemps. Aujourd'hui, ils ont trouvé ça. Et quand vous avez un joueur qui est capable de faire des différences à tout moment, tout est possible. possible. Alors là, là, ce qui va être intéressant, c'est de le voir contre la, la défense de la Juve. Parce que la Juve d'aujourd'hui, c'est pas la Juve il y a 4 mois. Là, la Juve, ils sont monstrueux.
C'est un but sur les 17 derniers matchs, voilà. Je crois, toutes compétitions confondues, c'est un truc comme
et
ça.
Et c'est 11 victoires de rang, toutes compétitions confondues, ouais. Ce qui vous pose
Mais ça veut dire que Kane, là, va avoir à faire une opposition qu'il a peut-être, j'ai encore jamais eu en première ligue cette année, avec notamment Mehdi Benatia, qu'on redécouvre, parce qu'on sait que c'est un très bon joueur, mais là, qui est absolument monstrueux, ce qu'il fait cette année à la Juve, c'est monstrueux. Et je voudrais voir un petit peu, moi, cette capacité, justement, à cette équipe de Tottenham à se créer des occasions contre la Juve. Et là, on verra si vraiment Tottenham, c'est un adversaire qu'on devra prendre au sérieux. Je pense que pour l'instant, ça me semble, hein, à première vue, être dans la catégorie un peu en dessous.
Vous êtes d'accord avec ça, Naïm?
Oui, la Juve sera forcément favorite. Il y a quand même un fait qui peut plaider en la faveur de Tottenham, c'est qu'ils ont un milieu de terrain qui sait jouer au foot. Il y a d'ailleurs, il y a Eriksen, il y a des mecs, il y a Wanyama, il y a des mecs qui savent vraiment manier un ballon. À la Juve, sortie de Pjanic, c'est quand même des mecs un peu solides, un peu, alors Matuidi jouera pas, mais Khedira, tout ça, c'est quand même des mecs moins à l'aise avec la balle. Moi, j'attends un petit peu le cœur du jeu de, sur ce match de Tottenham, qui fera pour moi la différence. Après, c'est vrai qu'il y a un petit peu que Harry Kane qui marque des buts. Dele Alli, je le trouve décevant ces derniers temps.
Ah, mais c'est le cas.
Donc, voilà.
Ouais, il fait des belles vidéos, quand même.
C'est vrai, Dele Alli, c'est un peu le,
c'est devenu un acteur,
point faible pour l'instant, cette équipe de Tottenham, pas
le point faible, mais le...
Non, mais
celui
qui est un point de déception,
ben forcément, en ce début de saison, au début de saison, en tout cas, en début de saison, on attendait trois hommes. Kane, Eriksen, Ali. Et Ali est très loin des deux autres. Kane qui est déjà au-dessus de ses deux coéquipiers. Eriksen a eu un coup de moins bien. Il est bien revenu. Dele Alli, les seuls deux bons matchs, j'ai presque envie de dire, de sa saison, c'est les deux matchs face au Real, d'ailleurs, où il avait été très bon à l'aller et au retour, surtout à Wembley, où il avait été excellent. Sinon, c'est vrai qu'il est très en dessous. Et c'est face à la Juve, là encore, qu'on l'attendra.
Juste petite parenthèse, je voulais qu'on prenne des nouvelles de Serge Aurier. Il était sur le banc, il n'est pas rentré. Ouais. Il était sur le banc le match d'avant. Il a quand même fait 5 titularisations cette saison en Ligue des Champions contre 12, entre guillemets, seulement en Première Ligue. Mmh. Est-ce que c'est l'homme de la Ligue des Champions? Est-ce qu'on lui fait confiance pour la Ligue des Champions? Est-ce qu'on lui fera confiance demain face à la Juve, selon vous?
C'est plus que possible, effectivement. Il y avait aussi un objectif pour Mauricio Pochettino. Il sait qu'il a aujourd'hui deux très bons arrière-droits. Donc, il peut se permettre de faire tourner, entre guillemets. Lui, il considère qu'il a deux arrière-droits de même niveau. Donc, contre Arsenal, il met quelqu'un. Et trois jours après, il peut se permettre potentiellement de mettre quelqu'un d'autre, en sachant qu'après, il y a aussi la Coupe d'Angleterre. L'Angleterre était bien moindre par rapport au championnat et Ligue des Champions, mais Tottenham est déjà bien placé, j'ai envie de dire, dans cette compétition. Ils affrontent Rochdale, qui est une équipe moindre, donc qui peut potentiellement viser là aussi d'aller très loin, donc il peut se permettre de faire tourner sans pour autant perdre de niveau.
Un dernier mot sur Tottenham, non? Tout est dit, une bonne équipe, il y a Kane, mais pas encore favorite face à la Juventus Turin. On va désormais parler de Manchester City. Alors là, ça va beaucoup mieux en Première Ligue, hein, Manchester City, qui continue de s'envoler en haut du classement du championnat d'Angleterre. They went all the way to penalties. De Bruyne and Sergio Aguero. Well, De Bruyne is at it again, putting it on a plate, this time for Sergio Aguero. And Manchester City, 3 minutes into the second half, are back in front. Bernardinho, De Bruyne, Sergio Aguero. Schmeichel couldn't keep it out. And Sergio Aguero has a third for Manchester City, who are taking this game away from Leicester now. Well, Schmeichel has gifted it to Sergio Aguero, and he will gladly accept that. Another Manchester City hat-trick for Sergio Aguero. Sergio Aguero. Oh, that's vicious. Unstoppable and absolutely amazing again. And Manchester City going 16 clear at the top of the Premier League. Voilà, la vie est belle pour les Citizens de Pep Guardiola. Un nouveau carton, 5 buts à 1 face à Leicester, avec un quadruplé d'Aguero. On a beaucoup entendu son nom là.
Oui, il y a quelques instants, Hervé Penaud disait « Ah, Tottenham aurait pu être la surprise s'il y avait eu justement des surprises au classement. »
C'est un délire, c'est moi qui l'ai dit.
Oui, exactement.
Le souci, c'est encore mieux quelques minutes plus tard.
C'est ça. Le problème, c'est que Manchester City, cette année, a vraiment performé. Et on le voit depuis le début de la saison. 27 journées de championnat, 23 victoires. Juste de dire ça, c'est aberrant quand même, ces chiffres. Vous avez évoqué le cas Aguero, quadruplé pour lui, triplé de passes pour Kevin De Bruyne également, trois passes décisives pour lui. Enfin, quand vous avez vos joueurs qui sont au top et en plus vous vous permettez de faire légèrement tourner Bernardo Silva qui était là à la place de David Silva, vous faites tourner, vous gagnez. Enfin, c'est, j'ai envie de dire, c'est la meilleure manière d'être en pleine confiance.
Alors, justement, là, ce qu'on comprend, c'est que la vie est plutôt belle dans cette partie-là de Manchester. Oui. On se demande un petit peu ce qui peut arriver aux Citizens, Cédric De Oliveira, d'autant qu'ils affrontent Bâle, le club suisse de Bâle, en Ligue des Champions. C'est pas exactement le tirage le plus
Suisse,
compliqué.
On n'a pas de Bâle. On n'a pas eu de Bâle.
Mais
non,
on a essayé de trouver quand même des arguments que l'équipe suisse pourrait faire valoir.
Alors,
demain.
Un petit peu, vous le disiez, hein, c'est pas du calibre du PSG, du Real ou encore de la Juventus, on en parlait, mais Bâle est une équipe
plutôt dangereuse à domicile dans son stade du Parc Saint-Jacques. Alors, Bâle a battu notamment Manchester United 1-0 en phase de poule, a dominé également Benfica 5-0 quand même. C'est une équipe qui évolue en 3-4-3 et qui surtout s'appuie sur la vitesse de ses attaquants. On pense notamment au Norvégien Mohamed El Younoussi et surtout à l'attaquant suisse d'origine camerounaise Dimitri Oberlin qui est né à Yaoundé. Oberlin qui avait notamment été flashé à 38 km/h dans ce match face au Benfica pour aller marquer un but. Voilà, donc c'est peut-être sur ces armes-là que le FC Bâle va devoir s'appuyer, une équipe qui participe à la Ligue des Champions tous les ans et qui a fait donc 2 huitièmes de finale lors de ces dernières années.
Donc de l'expérience, de la rapidité devant, sachant que a priori ils vont laisser le ballon aux joueurs de Manchester City, Naïm Moniol, des arguments qui doivent être pris au sérieux.
Oui, non, mais c'est une équipe, de toute façon, si elle s'est qualifiée dans un groupe avec Benfica et United, en battant Benfica et United, il faut la prendre au sérieux. Juste pour revenir sur le 3-4-3, c'est en Ligue des Champions, parce qu'en championnat, ils sont défense à 4. T'as Ricky Van Wolfswinkel, qui venait de Saint-Etienne, qui avait été un flop terrible, qui a déjà marqué 8 buts cette saison là-bas. Après, voilà, c'est une belle équipe, qui a fait une refonte de son organigramme l'été dernier. Ils ont fait revenir plein d'anciens, Marco Schreller, Alexander Frey, Raphaël Vicky. Ça tourne bien, il y a des jeunes, ça joue pas mal, ça défend beaucoup, mais tout ça, c'est à l'échelle du championnat suisse. Moi, je vois absolument pas le FC Bâle, même à domicile, poser des problèmes à Manchester City. Faut quand même pas déconner. C'est, il y a 2-3 volumes d'écart entre les deux équipes. Leur seule chance, effectivement, c'est à domicile de bien jouer, de marquer des buts et d'essayer de gagner. Parce qu'il y a quand même une classe d'écart, mais entre les deux équipes qui est abyssale.
Bon, a priori, là, je pense que ça va faire l'unanimité autour de ce
si
plateau.
Même si Bâle ne serait-ce que venait à gagner, à battre Manchester City, ce serait une méga surprise.
Même un nul à domicile,
Vous vous rendez compte que Manchester City, j'ai vu à plus 59 de goal average. Plus 59 en 27 matchs. Ils ont marqué 79 buts, c'est ça? 79 buts. Non, mais c'est proprement phénoménal. On parle du championnat d'Angleterre. C'est quand même pas le championnat le plus facile non plus. Et la preuve, c'est qu'ils ont pas, ils finiront pas invaincus. Ce qui prouve d'ailleurs qu'à un moment, vous peinez parce que il y a tellement d'intensité.
T'as la manière, t'as l'efficacité offensive, là, depuis 3-4 matchs. C'est vrai qu'ils ont toujours plus ou moins contrôlé les matchs. Mais parfois, il y a eu une période, un peu début 2018, où c'était des buts, ric-rac, dans les arrêts de jeu, des exploits personnels. Ça fait 3-4 matchs qu'ils retrouvent une efficacité devant les buts qui correspond à ce que tu vois sur les 80 premiers mètres du terrain.
Et puis Leicester est quand même une des équipes en forme. Alors, quelles que soient les erreurs qu'a pu commettre Schmeichel, c'est vrai qu'il a donné 2-3 buts, mais il n'empêche qu'être capable de faire 5-1 contre une équipe de Leicester qui était vraiment sur une dynamique positive, c'est quand même énorme.
Le FC Bâle, vas-y, je t'en prie.
Non, et puis surtout dans le match, on rappelle que Leicester était revenu à 1-1 quand même. Vardy qui marque son but, donc il fallait réagir et ils l'ont fait très vite avec ses 4 buts marqués.
Le problème du FC Bâle, c'est que le seul révélateur que tu as, justement, c'est la Ligue des Champions parce que leur championnat est tellement faible que, mis à part la double confrontation contre les Young Boys de Berne, tu sais jamais vraiment ce que ça vaut. Des équipes comme Lausanne, comme le Servette, c'était bien il y a 20 ans. Aujourd'hui, ça vaut pas tripette. Donc, tu peux mesurer ce qu'ils valent vraiment en Ligue des Champions. Le problème, c'est que quand tu arrives face à Manchester City, bah, c'est compliqué de savoir quel niveau.
Bon, alors, admettons que Bâle, ce soit une formalité. Enfin, bon, le terme n'est pas très respectueux, mais.
Une petite formalité, alors.
Admettons que ce soit une petite formalité. Les Citizens, donc, bon, ils enchaînent très bien en première ligue, 16 points d'avance. La vie est belle, la vie est facile. Est-ce qu'elle n'est pas trop facile alors que, entre guillemets, on entre dans le vif du sujet, au moins en Ligue des Champions? Est-ce que enchaîner les victoires trop facilement, c'est pas se mettre un peu en difficulté quand il faudra ressortir le bleu
chauffe? Quel débat aurait-on fait si ils gagnent 1-0 à chaque fois à la 89e minute? C'est compliqué, ces victoires. Qu'est-ce que ça donne en Ligue des Champions? Je préfère quand même avoir des équipes qui s'imposent 5-6-1, enfin sur ces différents scores. Et encore une fois, regardez bien les adversaires en question. Alors là, on parle de Leicester, United, c'était lors d'un derby, Tottenham, Arsenal, Chelsea. Enfin, c'est,
on parle pas de
championnat
de France là. C'est pas
ce sont des équipes qui sont en huitième de finale de Ligue des Champions. Ben,
on en parlera tout à l'heure.
Parce que l'idée, elle est là. C'est-à-dire que dans ce genre de questions, on sous-entend, il n'y a pas d'adversité. Alors qu'il y a une énorme adversité. C'est ça l'idée. C'est qu'il y a une énorme adversité. Donc s'ils les battent 5-1, 4-0, 3-0, ça veut dire quelque chose. C'est que ça signe déjà aujourd'hui la qualité de l'équipe de Manchester City. Et ça va être dur de les bouger cette année. Mais il y a des matchs qui s'avancent en Ligue des Champions qui sont très, très, très passionnants.
Donc à l'inverse, on peut penser que, justement, ne plus avoir à batailler pour chaque point. Sur le plan domestique, en championnat, ça permet de s'économiser, sachant que
il fait pas tourner tant que ça.
Il y a pas eu de trêve, on rappelle.
Il y a pas eu de trêve, mais il fait pas tourner tant que ça. En plus, Guardiola, même les matchs contre des oppositions plus faibles en Coupe d'Angleterre ou en Carling Cup, il a continué de faire jouer l'équipe type. Donc globalement, par un ou deux joueurs, tout à l'heure, Salim parlait de l'entrée de Bernardo Silva, tu vas avoir la même équipe qui a joué pendant Boxing Day demain contre le FC Bâle. Donc non, moi je pense que les mecs qui sont là pour faire 50-60 matchs cette année, Guardiola a mis en place un jeu qui correspond à ça, a bonifié ses joueurs, tout le monde aujourd'hui au top. club. Kevin De Bruyne est un monstre. Agüero, j'en parle même pas. Pour l'instant, tous les voyants sont ouverts.
Et vous allez quand même me trouver une petite faille, c'est une bonne galine dans cette équipe, dans ce système Guardiola.
Alors, avec Hervé, on en parlait hors antenne. On se disait, bon, le seul chose qui peut agacer, c'est que City parfois concède un petit peu trop de cases. Après, Hervé, c'est la manière de jouer de City, j'ai envie de dire.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que le problème, on peut pas avoir une équipe qui est parfaite défensivement, offensivement. Ça, c'est impossible. C'est un peu comme l'histoire des latéraux. Quand on m'explique, ah ben, latéral, il est pris dans son dos, mais on lui demande toujours d'attaquer. Donc, à un moment, c'est pas Speedy Gonzalez. Il peut pas revenir à la vitesse grand V. Donc, effectivement, là où il faut insister, certainement, c'est à la récupération de balles, d'aller très vite pour leur poser des problèmes, parce qu'ils sont pas toujours bien en place tactiquement, puisqu'ils ont la première pensée, c'est d'attaquer. Donc, si vous avez la pensée d'attaquer, parfois, vous êtes moins bien placé pour pouvoir défendre. Donc, ce qu'il faut, c'est dans ce jeu de transition, hein, c'est-à-dire cette récupération de la balle, être rapide pour les mettre en difficulté sur des positionnements.
Et question symbolique, je vois pas forcément City beaucoup tourner dans les prochaines semaines aussi, puisque si City continue ainsi, dans 6 matchs, City sera champion d'Angleterre. Hein, mathématiquement, ce sera possible. Dans 6 matchs, le match, c'est face à United. Symboliquement, remporter le titre face à Manchester United, pour Pep Guardiola, ce serait forcément face à José Mourinho, ce serait juste parfait.
Alors que City s'apprête donc à entamer la deuxième phase de sa campagne européenne, peut-être que l'une des failles qu'on peut souligner, c'est quand même un manque de d'expérience au niveau européen, c'est peut-être ça l'incertitude autour de Manchester City.
Non, mais là,
une seule demi-finale sur ces dernières années, le reste du temps ça a plutôt été
de l'histoire du club.
Oui. Oui. Après regardons l'histoire des joueurs.
Les joueurs ils ont
et puis c'est des joueurs qui ont aussi soulevé la Coupe du monde pour David Silva, qui ont remporté d'autres trophées européens pour Sergio Aguero, la Coupe de l'UEFA avec l'Atlético. Enfin, ce sont quand même des joueurs qui ont performé dans les compétitions européennes individuellement. On peut pas Bernardo Silva avec Monaco.
Il y a eu une demi-finale avec Pellegrini où ils avaient sorti le PSG en quart, donc non, juste histoire d'expérience.
Non, l'expérience ça pourrait jouer quand vous avez une équipe avec des jeunes joueurs qui connaissent pas, mais sinon là c'est que des monstres, hein. Là vous allez faire que des monstres, bon ben voilà.
Donc on s'attend à plutôt une double confrontation à sens unique. Donc je rappelle, hein, Juventus-Tottenham et puis...
Si ça n'était pas, on serait surpris.
Le Manchester City, demain la Ligue des Champions. On parlait de Leicester, il nous reste quelques minutes. On peut peut-être faire le point sur un dossier brûlant du côté de Leicester et qui concerne aussi Manchester City. C'était un petit peu un match où un joueur a brillé par son absence. Alors c'est vrai que Nabil Djellit pourrait nous donner un peu les dessous, mais on sait que voilà, il y a le dialogue est revenu, entre guillemets, entre le club de Leicester et Riyad Mahrez, la crise, en tout cas la grève de l'entraînement est terminée. Que va-t-il se passer désormais, Salimon Galli, pour Riyad Mahrez à Leicester?
Lui qui avait donc séché 4 entraînements, il est revenu à l'entraînement. Leicester a d'ailleurs fait un communiqué officiel disant que le joueur était à 100% désormais concerné par la fin de saison. Évidemment, Riyad Mahrez lui-même a également fait un communiqué en ce sens. D'ailleurs, petite anecdote, lorsqu'il est entré en jeu face à Manchester City, il a été applaudi évidemment par les supporters de Leicester et par ceux de Manchester City qui applaudissaient plus Riyad Mahrez que le joueur suivant de Manchester City qui est entré en jeu. C'est vous dire quand même que Riyad Mahrez, même les supporters de City le voulaient. Aujourd'hui, Riyad Mahrez a un objectif. Donc c'est bel et bien terminer cette saison, bien la terminer. Quand il est entré en jeu, il a fait plutôt de belles choses d'ailleurs, bien la terminer pour potentiellement avoir la garantie de pouvoir partir d'ici la fin de la saison.
Voilà. Ça va se refermer gentiment cette histoire. Il ne va pas y avoir trop de dégâts pour son image,
non.
Pour le joueur même.
Non, moi je trouve que son image n'a pas été si écornée que ça. Alors au début, ça a un peu gueulé, mais après le club a bien communiqué. Lui, d'une certaine manière, est rentré dans le jeu, de manière très positive. Il a tout donné. Moi, je pense qu'il va vous faire une super fin de saison, puis partir à la fin de saison. Il le mérite aussi parce que si Leicester est champion d'Angleterre, elle le doit aussi en grande partie à lui, pas qu'à lui, mais aussi à lui.
L'incident avec Lone, Emmanuel.
Oui, je suis d'accord avec eux, oui, pas de problème.
De toute façon, comment ne peut-il pas être d'accord avec de telles choses?
C'est ça qui est incroyable.
C'est tellement brillant. C'est tellement brillant.
Vous êtes un peu comme Manchester City autour de cette table, ça vous tue un petit peu le débat, vous tue un peu le game.
Vous êtes un peu la tête Guardiola.
Je suis un peu le Guardiola. Ce dossier Mahrez est quand même très bizarre. Si un jour on a un peu de temps, il faudra qu'on parle comment ce joueur peut soi-disant être
demandé
par tous les grands clubs.
On a un spécialiste dans notre réservoir de consultants, un certain Nabil Djellit qui saura peut-être plus tard nous révéler certaines...
Ouais, il y a des dessous quand même d'affaires.
Voilà, peut-être quelques révélations à attendre.
Il y a les dessous de Dele Alli et les dessous de...
Sur ce dossier. On continue à parler de la Première Ligue avec un sujet peut-être un peu plus polémique. Paul Pogba, j'espère que vous aurez des choses à dire, que je serai un peu plus en désaccord. On se retrouve après les informations, à tout de suite sur RFI.
Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Radio Foot, bienvenue si vous nous rejoignez à mes côtés. Salim Bangali, Hervé Penaud, Naïm Moniol, Cédric De Oliveira. Coup d'envoi de la seconde période.
Hervé Penaud Guardiola. Hein,
oui, je préférais la première fois. On m'appelait Pep Penaud.
Pep Penaud, ouais. Ça me va très bien. Comment dire, ironiquement ou non?
Surtout pas.
Très bien. Ça va le Lego?
Enfin,
pour passer la porte du studio.
Très très bien. J'ai regardé. C'est assez large.
Il organise son anniversaire au Palais Bourbon bientôt.
On va tous venir. Ça va faire polémique, non? Ça va nous attirer des ennuis. L'Angleterre avant la pause, l'Angleterre après la pause, pour évoquer des joueurs français dans le dur, comme on dit en mauvais français, dans le dur en première ligue. Paul Pogba, d'abord Cédric De Oliveira, qui hier a vécu une après-midi difficile à l'occasion de la défaite de son club 1-0 face à Newcastle.
Oui, Paul Pogba qui était titulaire mais qui est sorti à la 66e minute avec un visage, ou en tout cas on avait l'impression qu'il n'était pas dans son assiette, hein. Il y avait le visage fermé, Paul Pogba. C'est consécutif déjà la semaine dernière lors de la réception d'Huddersfield. Il est resté sur le banc, Paul Pogba. Il n'a pas joué cette rencontre. On a l'impression en fait que depuis l'arrivée d'Alexis Sanchez, Paul Pogba il est un peu en dedans, alors qu'il avait fait des mois de décembre et de janvier assez brillants. Pogba c'est quand même 9 passes décisives. C'était d'ailleurs le meilleur passeur de première ligue avant donc Kevin De Bruyne notamment ce week-end face à ses 3 passes décisives. Voilà, on a un petit peu l'impression que depuis quelques semaines, ça va moins bien pour lui.
Il y a une mini-crise, Paul Pogba, Salim Bangali, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, pour compléter, et là encore répondre aussi à votre question, c'est vrai qu'hier, en plus, il y a une séquence assez bizarre, juste avant la rencontre, pendant l'échauffement des joueurs, Paul Pogba, comme tous les autres, sont en train de s'échauffer, Paul Pogba s'arrête tout d'un coup, il vient voir l'adjoint de José Mourinho, et là, on le voit avec ses mains, on a l'impression qu'il montre qu'il est pas bien. En tout cas, on l'évoque ainsi. Il entre dans les vestiaires. On se dit même qu'il a peut-être déclaré forfait pour de dernière minute. Finalement, il entre sur la pelouse et effectivement, 65 minutes catastrophiques au final où il perd tous les ballons, rate tous ses contrôles et il sort en étant blême d'ailleurs. Ça, c'était pour la situation. Et effectivement, par rapport à Alexis Sanchez, c'est vrai qu'on, alors, encore une fois, Alexis Sanchez n'est là que depuis 3-4 rencontres. Au final, c'est très peu, mais est-ce que Paul Pogba a, entre guillemets, perdu les responsabilités qu'il avait et qui sont allées envers Alexis Sanchez? C'est presque l'impression qu'on a. Attendons évidemment avant d'évoquer cela, mais c'est une impression ponctuelle qu'on peut avoir.
Donc ce serait quoi? Ce serait une querelle d'ego? C'est un peu comme quand il y a Hervé Penaud autour de la table, autres consultants.
Non, parce que les autres savent.
Même pas parce que Hervé écoute. Voilà. Donc il n'a pas d'ego. Contrairement, alors là, peut-être que des joueurs ont des égos, oui, mais après, vous avez acheté Alexis Sanchez avec tout le tintouin qui est autour. Et vous lui donnez tout simplement les responsabilités, et donc vous en retirez peut-être un petit peu à Paul Pogba.
Donc la Coupe du Monde approche, Naïm Moniol. Si on était des supporters de l'équipe de France, est-ce qu'on devrait s'inquiéter de voir la pioche piocher justement?
Il faudrait s'inquiéter tous les ans à peu près à la même époque, parce que le problème de Pogba c'est qu'il a jamais fait vraiment une saison pleine, régulière, à être 10 mois au top. Donc je suis pas surpris de le voir retomber un petit peu dans ses travers. L'arrivée de Sanchez a quand même chamboulé pas mal de trucs à Manchester, et pour Pogba et pour Martial, c'est que maintenant Mourinho joue avec 4 attaquants, un milieu à 2, et dans cette configuration, Pogba, forcément il va prendre le bouillon, c'est quelqu'un qui déséquilibre l'équipe, qui aime bien monter, qui aime bien faire ce qu'on lui demande pas et oublier de faire ce qu'il devrait faire, et il se retrouve un petit peu dans cette configuration où le nouveau système de Manchester avec l'arrivée de Sanchez ne lui correspond pas. Je pourrais le dire aussi pour Martial, qui depuis que l'arrivée de Sanchez a été acquise, il est moins bon, il est moins efficace, tout ça.
Et il joue pas à son poste.
Pogba, il va falloir qu'il apprenne à composer avec le fait que c'est pas la star de l'équipe. C'était pas la star à la Juve, c'est pas la star à United. Il faut vraiment qu'il intègre ça, parce que j'ai un peu l'impression que quand il se sent aimé, quand il se sent au top, il est bon, il est là un petit peu. Et dès qu'il y a des joueurs qui commencent un petit peu à prendre la lumière, lui, il plonge dedans.
Il y a un ancien grand joueur, Graham Souness, qui a parlé de Pogba comme un joueur de cours d'école hier. Un joueur qui sait faire des choses avec la balle au pied, mais qui est pas forcément mature d'un point de vue tactique, dans le rayonnement par rapport au jeu de son équipe. C'est abusé.
C'est un peu abusé, parce qu'on l'a dit, hein, il a été à 9 passes décisives, il n'a pas rien fait. Simplement, effectivement, déjà sur une saison, il n'y a jamais un joueur qui est régulier. Il y a toujours des trous, ça c'est obligatoire. Mm-hmm. Sauf Messi, sauf Ronaldo. Mais c'est pour ça que ce sont des extraterrestres. Mais, ou voir Neymar. Mais parce que c'est l'histoire du foot. Ou alors vous me dites, les mecs sont chargés comme des mules du début à la fin. Parce que c'est pas possible. Il faut avoir toujours des trous. Ça prouve que le gars est encore un peu humain. Mais le problème de Pogba, ça c'est vrai. Je pense que là-dessus c'est très important en termes d'ego, hein. On se souvient que quand, par exemple, Martial, quand Ibrahimovic est venu, on lui a pris son numéro, ça l'a plombé pour un bout de temps. Parce que déjà il avait sa marque de fringue, il était avec le 9, il a vu l'autre prendre sa, c'est vrai. Mais c'est capital. mal dans un vestiaire de comprendre les guerres d'ego. Et quand Pogba est la star absolue, entre guillemets, je parle pas qu'en termes de joueurs, mais en termes de allez, produits marketing, quoi, hein, c'est le Nike Show. D'un seul coup, vous avez Alexis Sanchez qui arrive, qui est une méga star aussi, et peut-être plus que lui. Et en plus, on lui donne les clés sur le terrain. Bah, au bout d'un moment, ça fait un petit problème personnel.
Cédric De Oliveira, un autre joueur français en difficulté, en tout cas qui s'est illustré dans le mauvais sens du terme ce week-end. Là, on revient sur le derby du nord de Londres, Tottenham-Arsenal. C'est Alexandre Lacazette. Il a perdu sa place de titulaire à la pointe de l'attaque d'Arsenal. Et il s'est illustré par des ratés contre Tottenham.
Ouais, deux ratés contre Tottenham qui prouvent que peut-être il n'est pas vraiment dans son assiette, Lacazette. C'est un but sur les 13 derniers matchs avec Arsenal. La dernière fois qu'il a marqué, c'était le 20 janvier face à Crystal Palace. Alors à titre de comparaison, quand il était titulaire, ou en tout cas en début de saison, et il avait marqué 8 buts lors des 15 premières journées. Il y avait aussi son doublé avec la France contre l'Allemagne au mois de novembre. Mais c'est vrai que depuis l'arrivée d'Aubameyang, on dirait qu'il a repris la place de Giroud qui est parti à Chelsea, le remplaçant qui n'arrive pas vraiment à s'extirper de ce statut. Et en plus, Arsène Wenger, qui a mis un peu plus de 60 millions d'euros sur Aubameyang, va visiblement plus lui faire confiance qu'à Lacazette.
C'est cuit pour la Lacazette. Le Gabonais lui est passé devant, c'est Emmanuel.
Non, justement, parce que ce match face à Tottenham a montré au moins une chose, c'est lorsqu'il est entré en jeu. Et donc, que Lacazette et Aubameyang ont joué ensemble, et bien Arsenal s'est procuré ces fameuses
Les profils sont complémentaires.
Arsène Wenger a été déjà en conférence de presse d'avant-match, et même après la rencontre, il le disait, oui, ils peuvent jouer potentiellement ensemble. Donc, c'est là où l'espoir existe, c'est que Lacazette et Aubame peuvent jouer ensemble, et donc Lacazette, elle a déjà, il s'est procuré des opportunités, ce qu'Aubameyang dans cette partie n'a pas réussi à faire, donc c'est déjà, je veux dire, une chose forte. Donc oui, Lacazette et Aubameyang peuvent jouer ensemble, donc il y a d'espoir.
Oui, parce que le profil d'Aubameyang est très particulier, donc il va falloir apprendre à jouer avec lui dans la profondeur. Alors, ça s'était très bien passé sur le premier match, mais enfin, un match, c'est pas tout. Et de la même manière que ce match-là, même s'il a été mis sur le côté gauche un peu plus tard pour faire rentrer Lacazette, c'est pas plus comme ça que Wenger le voit. Pas au bout d'un match qui va changer le positionnement d'Aubameyang. Il l'a pris pour être attaquant de pointe, il le fera jouer attaquant de pointe. Maintenant, il va falloir que tout le monde s'habitue un peu au jeu des uns et des autres, mais Lacazette aurait pu gagner beaucoup de points en rentrant. Il en a gagné, si vous, dans le sens du jeu, entre guillemets, c'est-à-dire de s'être procuré deux grosses occasions, et notamment la deuxième. La frappe passe à très peu, mais d'un autre côté, il les a gâchées. Ouais, il s'accrée. Parce que le départ est vachement intéressant. Malheureusement, vous ratez quand même deux occasions, et ça vous fait pas gagner des points dans cette
Naïm, vous êtes d'accord avec la réflexion brillante d'Hervé Penaud?
J'aime beaucoup ça.
C'est-à-dire que quand vous ratez des occasions, on doit vous féliciter parce que vous êtes provoqué ces occasions.
C'est pas ce que j'ai dit,
non. Non, faut pas le féliciter quand il mange la feuille deux fois en cinq minutes. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a un petit peu une vision faussée de Lacazette, pour moi, c'est que on voit Lacazette comme un buteur, un tueur de surface, un type qui colle 30-35 buts par an. Lacazette, c'est un attaquant qui est bon justement à deux pointes parce qu'il aime jouer avec les autres, parce qu'il tourne autour. Et si on attend de Lacazette à Arsenal qu'il fasse ce que faisaient des Thierry Henry et compagnie, mettre 30 buts dans la saison, on peut arrêter tout de suite, ça ne marchera pas. C'est quelqu'un qui est un joueur qui joue complémentairement avec un autre attaquant, avec des ailiers. Il sait faire jouer, il court, il décroche, il peut jouer sur un côté, il joue en pointe, il tourne autour et se crée des occasions. S'il est utilisé comme ça, Lacazette sera bon, finira par être titulaire. C'est un bon joueur, Lacazette, il y a aucun problème. Puis en plus, il est pas écrasé par le poids de la concurrence.
Ouais, c'est vrai.
Même si Aubameyang arrive, Arsenal, t'as quand même pas l'effectif de City. Donc, il va à un moment donné, il va réussir. Ce qui est sûr, c'est que sur des matchs comme ça, il se rate, ça fait perdre le match. En tout cas, ça te fait rater l'égalisation. Voilà, on se focalise là-dessus. Moi, je pense qu'il va largement briller à deux pointes. Faut juste, comme disait Hervé, qu'il s'habitue à jouer avec Aubameyang.
Et n'oubliez pas la psychologie de Wenger. Quand Giroud rentrait, marquait des buts tout le temps, c'est pas pour ça que Giroud était titulaire. Giroud repartait sur le banc et rentrait en deuxième mi-temps. Ça a toujours été ça. Donc, il n'y a pas de raison. Je vois pas comment Aubameyang, sur un match raté ou sur 40 minutes ratées, lié à lui aussi, parce qu'il est moins fort, évidemment, dans les petits intervalles et dans les remises, et lié aussi aux autres, puisqu'il faut pouvoir le trouver. Et c'est pas toujours facile.
Faut pas oublier que Walcott est parti, que Welbeck est souvent blessé, donc tu vas avoir besoin de lui, dans l'année.
Bien sûr.
Bon, on vérifiera.
Surtout qu'il a joué les matchs de Ligue Europa.
Oui, puisque
on verra ce que ça donne pour Alexandre Lacazette donc dans les prochains jours, les prochaines semaines, celle qui mène à la prochaine Coupe du Monde. Et encore, c'est pas sûr qu'il la dispute.
Bon, attention, Marcelo, c'est loupé. Et Wabi Kazri qui a la balle du premier but et qui ne la rate pas. Et l'Olympique Lyonnais qui est mené après 5 minutes de jeu sur sa pelouse.
Pas de hors-jeu, pas de hors-jeu pour Traoré. Il y a des Rennais qui demandent le ballon dans l'axe et ça va se terminer par cette frappe. Et le deuxième du Rennais, il est signé James Olea-Siddiqui.
Enfin.
handicapé par une défense lunaire, on peut dire ça comme ça. Lyon s'offre une petite crise de résultats, elle était relativement inattendue, hein. On n'aurait pas forcément parié là-dessus il y a quelques semaines. 3 défaites consécutives, la dernière face à Rennes, hier en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Résultat au classement, l'OL est 4e à 4 points du 3e, Marseille, l'OM auteur d'un nul à Saint-Etienne vendredi 2 partout. C'est Monaco qui occupe la 2e place à la faveur de son large succès 4-0 ce samedi face à Angers. Cédric de Oliveira, pensez-vous que Lyon est en train de décrocher dans cette lutte pour le podium?
Bah là, en tout cas, si on part sur le plan comptable, effectivement, ça fait quand même donc 9 points de perdu en 3 matchs. Après, est-ce que c'est pas un coup de moins bien comme l'ont déjà eu d'autres équipes? Marseille l'a eu en début de saison. Monaco l'a eu aussi au moment où ils étaient éliminés de la Ligue des Champions. Voilà, c'est un coup de moins bien, mais c'est vrai que depuis cette victoire face au PSG, on sent que Lyon est un peu moins bien, à part cette victoire en Coupe de France face à Montpellier. Voilà, faudra voir effectivement comment va se passer la suite.
Vous êtes inquiet pour Lyon, Naïm Moniol?
Inquiet, non, parce que ni Marseille ni Monaco n'a non plus réussi une série terrible de 6 ou 7 victoires qui permettrait de prendre de l'avance. Ce qui est bizarre avec Lyon, c'est que on voit pas en fait ce qui cloche. Ils ont la même équipe, les mêmes joueurs sont utilisés dans le même système, il y a le même entraîneur. Ce qui marchait très bien il y a un mois et demi ne marche plus depuis 3 semaines. Voilà, Fekir continue à avoir de l'activité, mais il n'est plus étincelant. Le milieu, Touzard et Ndombele, qui était assez étincelant, ne l'est plus. Derrière, ils avaient réussi un petit peu à stopper l'hémorragie, mais ils viennent de prendre 8 buts en 3 matchs. Voilà. On comprend pas bien. Ça peut se relancer d'ici 15 jours, 3 semaines, comme ça peut ne pas se relancer. Ce qui est problématique dans la course à la deuxième place, c'est que Lyon est toujours engagé en Coupe d'Europe, à l'inverse de Monaco, qui lui, maintenant, n'a plus qu'un match par semaine. Ça, à 4 points d'écart, 5 même avec Monaco, c'est problématique.
Problématique ou pas, vous voulez penser qu'à
et
de
moi je pense que Lyon, et je les suis en plus, et je l'ai souvent dit même ici, c'était miraculeux d'être deuxième. Parce que si vous regardez même les matchs qu'il a gagnés contre les gros, ça s'est toujours joué à rien du tout, ils ont souvent été dominés. Après ils s'en sont sortis, Monaco, coup franc de Fekir, dernière minute, enfin j'en passe les meilleurs, ils en ont eu un paquet comme ça. Mais Lyon c'est une équipe qui est jeune, c'est une équipe très jeune, c'est-à-dire que c'est pas comparable avec Marseille et Monaco. À Lyon vous avez des joueurs qui n'ont jamais joué en Ligue 1, il y avait des Ndombele, des Aouar. Mendy, des Aouar, etc., j'en passe les meilleurs. Vous avez un Mariano Diaz qui avait jamais joué comme titulaire Ligue 1, Ligue 2 espagnole de sa vie. Alors, ça tombe bien, c'est quelqu'un qui peut marquer des buts, donc il est très utile, attention, c'est un très bon choix. Mais en revanche, il a des défauts, parce que s'il était capable de marquer des buts, de savoir jouer au foot, il serait pas à Lyon. De toute façon, il serait resté au Real Madrid. Et vous pouvez pas jouer avec lui. Donc ça veut dire qu'il y a des défauts. C'est des joueurs très solistes. Memphis Depay qui a du potentiel, mais par contre il s'oublie parfois dans les matchs. Cornet, pas non plus un génie du football, mais c'est un lui à la rigueur et c'est un bosseur, donc ça vous fait ça. Traoré, hop, intermittent du spectacle. J'adore Traoré, je lui disais récemment encore, il faut que tu fasses plus, il faut que tu tentes plus.
Vous êtes le coach personnel
non,
de Bertrand Traoré.
Non, des fois je trouve qu'il a une forme de timidité, alors que c'est un joueur qui a un énorme potentiel. Alors lui, il sort de 2 mois et demi de blessure, donc aussi il faut peut-être se remettre dans le coup, parce que sur l'ensemble c'est quand même l'un des joueurs important de cette équipe. C'est-à-dire que si Fekir est un peu moins bien, évidemment, vous êtes plus en difficulté. Et quand Marcelo est un peu moins bien, ce qui est le cas en ce moment, d'un seul coup, l'édifice s'écroule. Donc, c'est pas une équipe qui a beaucoup de certitudes. Moi, je pense que Marseille et Monaco, c'est deux effectifs autrement mieux fournis.
Ah, donc c'est là que ça va se jouer sur le manque d'expérience du groupe lyonnais en tant que groupe.
Oui, alors j'avoue, il y a une chose que j'arrive pas à analyser, peut-être que mes camarades autour.
Tout de suite, je vais te le dire.
Vision. Non, mais surtout quand on parle d'individualités, effectivement, qui sont en dessous, Fekir, Marcelo, qui pourtant performait il y a quelques semaines encore, on a l'impression que, est-ce que c'est un coup de fatigue tout simplement de cette équipe lyonnaise qui tout d'un coup sous-performe d'un coup d'un seul, parce que c'est tous les joueurs qui sont absents contre Monaco.
Parce que hier le match ils peuvent le gagner, ça se trouve si le pénalty est sifflé, parce que c'est vrai qu'il y a un pénalty oublié, un pénalty c'est pas un but, c'est pas pour ça que vous avez marqué. Après ils ont quand même des occasions, Cornet qui fait un croche-pied à Traoré qui met une belle frappe, elle est enlevée par le gardien, vous avez Fekir, il y a quoi, il y a deux trois, même fils de paille qui met une tête piquée qu'il aurait mis 10 fois. Donc ce match-là, même dans ces conditions, ils auraient pu gagner. Mais ça a été l'histoire de Lyon cette année. C'est pour ça que déjà être au très top niveau du classement comme ça, c'est pas mal.
Je crois pas que ce soit un problème physique, parce qu'en première mi-temps, ils étaient complètement transparents. Alors qu'en deuxième mi-temps, ils ont pris un peu le jeu à leur compte, ils se sont procurés des occasions, alors que physiquement, t'as quand même plus tendance à plonger vers la fin que vers le début. Et je crois pas, si tu te rappelles du match contre Monaco et de la défaite contre Bordeaux, qu'ils ont été à la rue physiquement. J'ai l'impression qu'il y a eu un coup qui a été mis derrière la tête. Tout à l'heure, Cédric disait, après la victoire de Paris, peut-être qu'ils ont pensé qu'ils avaient fait le plus gros et que ça allait tourner.
Ils gagnent à Monaco dans la foulée.
Et ils gagnent
en Coupe de France.
Peut-être que c'est ça. Voilà. Peut-être que le fait que la Coupe d'Europe revienne, peut-être qu'ils ont un petit peu mis la focalisation sur autre chose. Moi, je suis
Je suis moins d'accord avec Hervé sur le fait que c'est une équipe peut-être qu'à moins de talent qu'à Marseille ou qu'à Monaco. Moi,
j'ai pas dit talent.
Ah. Ouais, enfin, t'as dit globalement. Ouais.
Ah oui, d'expérience.
Ah oui.
Chaque année,
Lyon est l'équipe qui a le moins d'expérience au tableau. Chaque année, ils sont en Ligue.
L'expérience. Et là où je suis d'accord, c'est que Lyon cette année a perdu 14 points à domicile. 36 possibles, ils en ont perdu 16 à domicile. Et face, entre guillemets, à des équipes qui ne sont pas du même standing. Bordeaux, Lille, Dijon, Angers.
Bon, est-ce que tout ça c'est rédhibitoire pour la suite, pour la course au podium et pour la Ligue Europa et la confrontation face à Villarreal.
C'est un handicap. Attends, est-ce que c'est rédhibitoire? On le verra, parce que les autres peuvent avoir aussi des.
Oui, parce que je te dis,
Marseille et Monaco ne font pas non plus de série. Marseille l'a fait, Monaco l'a fait plus, mais Lyon, ce que je veux dire, c'est que Marseille et Monaco ne font pas non plus des séries de victoires étirées.
Oui, mais Cédric disait que finalement, les défaillances, ces clubs-là, les ont peut-être déjà connues.
Le Marseille-Lyon va être. Si demain Marseille, Florian Thauvin se blesse, qu'est-ce que tu fais?
Parce donc
que
Monaco aussi, et Marseille sont pas à l'abri de ce qui atteint Lyon.
J'ai l'impression que Monaco ils sont solides. Là.
Malgré tout, alors par victoire, mais c'est très handicapant encore une fois ce qui se passe. Lyon perd des points face aux petits, on va le dire ainsi, de deuxième partie de tableau. Là où Marseille et Monaco ne perdent pas ces points-là, c'est ça. Et au final, des petits vous en affrontez plus que des gros.
Absolument. Mais il faut pas oublier une chose avec Lyon. Ils ont perdu leurs meilleurs joueurs. À un moment, quand vous perdez vos meilleurs joueurs, Lacazette, Tolisso, Godalon, on se rend compte l'importance de Godalon, aujourd'hui il n'est plus là. Même Jallet, très important dans le vestiaire, pas un grand joueur, mais très important dans le vestiaire, à un moment vous êtes moins bon.
Assez loin devant tout ce petit monde là qui se chahute pour le podium, il y a le Paris Saint-Germain qui lui est plutôt tranquille en championnat. Victoire à Toulouse ce week-end au terme d'un match à sens unique. On a regardé les statistiques tout à l'heure. Cédric de Libera, 78%
oui, 78% de possession
pour le PSG à Toulouse. Match assez tranquille, sixième victoire de rang. Est-ce de bon augure avant le grand rendez-vous face au Real Madrid, le huitième de finale aller de Ligue des Champions mercredi? On a tendance à dire oui, mais on a aussi tendance à s'interroger sur la valeur qu'on peut donner à ce type de succès face à Toulouse, un mal classé de Ligue 1. Est-ce que ce succès face à Toulouse et ces succès enchaînés face à Sochaux, Lille, Rennes, Montpellier, Guingamp, quelle valeur on peut leur donner, Naïm?
Dans ce sens-là, c'est pas vraiment révélateur, quoi. Paris qui bat Toulouse, on va pas partir du principe que Paris est favori contre le Real parce qu'ils viennent de battre Toulouse, c'est normal. Après, c'est toujours bien pour la confiance de gagner sans encaisser de but, mais tu peux pas dire face à Toulouse ou même les matchs précédents que Paris est favori face au Real par rapport à ce qui se passe en Ligue 1. Donc c'est pas révélateur, absolument pas. C'est toujours mieux de gagner. Neymar a fait un très bon match. On a eu 2-3 certitudes, notamment sur le 4 Diarra. On sait que physiquement, ça sera pas bon pour le Real, sera pas prêt. Après, c'est quand même...
Alors justement, parce que peut-être que le grand enseignement de ce match, c'est ce qu'a dit Unai Emery en conférence de presse en dehors du match. Mota ne sera pas là face au Real.
Mota n'est pas rétabli et physiquement.
Et vous vous dites que Diarra.
Moi j'ai vu que Diarra n'était pas prêt physiquement. Après, je suis pas Unai Emery. Est-ce qu'il le mettra pas? Je sais pas. Mais on va dire que si Diarra est aligné en sentinelle contre le Real à Madrid, selon ce que fait le Real, ça peut être très compliqué aussi.
Donc ça fait partie des enseignements possibles de cette rencontre.
Moi, j'ai jamais vraiment.
La non possibilité, la Sana Diarra face au Real.
Ça me paraît compliqué. Un joueur qui a quasiment pas joué pendant un an, de le mettre sur un match aussi important. Parce qu'est-ce qui va lui manquer? À l'arrière, c'est pas le physique, parce qu'il s'est bien entendu, c'est l'explosivité, le rythme. Et ça, vous pouvez pas le gagner, parce que vous avez joué Sochaux 20 minutes et Toulouse 1 heure. La première vue, même si dans la configuration samedi, en général, les entraîneurs, ils aiment bien mettre leur équipe type, c'est quand ils peuvent, hein, parce que Cavani était pas là, et puis il y a 2-3, l'histoire Kimpembe, c'est peut-être pour aussi montrer à Kimpembe qu'on a confiance en lui. Mais il n'empêche qu'en général, ils aiment bien mettre le match d'avant, l'équipe type. C'est une espèce de rodage. Donc je pense qu'il s'est dit, Diarra, on va voir ce que ça peut donner quand même après Sochaux. Après, est-ce qu'il est capable d'enchaîner, de voir si c'est possible. Moi, ça me paraît un peu juste. Surtout, vous avez quand même Rabiot, Lo Celso. Faut arrêter de me dire, tout le monde se moque de Lo Celso, me disant, oh, il peut pas jouer devant la défense. Je vois pas pourquoi il pourrait pas jouer devant la défense. Et même à la rigueur, Verratti, c'est pas son meilleur poste. Oui, tout à fait. C'est pas un 6. Mais à la rigueur, vous mettez Rabiot devant la défense et Lo Celso plus haut ou Draxler.
Après, bon, c'est Rabiot qui vous dira, j'aime pas jouer juste devant la défense.
Il a toujours dit que
quand à l'occasion de jouer le Real,
exactement. Et il a toujours dit, Rabiot, il a toujours dit, même si je préfère pas jouer là, ça ne me pose aucun problème. Faut pas non plus lui faire dire ce qu'il semble ne pas avoir dit. Enfin, lui, c'est ce qu'il dit.
De toute façon, il y a pas besoin de 6, hein. Ils ont mis 400 millions sur Neymar et Mbappé. C'est sur eux qu'on va regarder.
Hormis le fait qu'on y voit peut-être un peu plus clair sur le cas Diarra, enfin sur le
on voit pas
sur
clair,
le
hein.
cas du numéro 6, en tout cas on sait que Mota sera pas là et d'après Naïm c'est assez
mais
clair
est-ce qu'il
que
sera
Diarra n'a pas annoncé
d'après
qu'il était
Naïm, hein. Mais est-ce qu'il pourrait pas être sur le banc Thiago Mota?
Parce qu'il a dit qu'il venait
tout
pas.
C'est possible.
On sait jamais. On sait jamais.
Et il y a d'autres enseignements là sur cette série de victoires, à tirer de cette série de victoires parisiennes.
Ah,
vous
si,
êtes
a...
plus rassuré, vous avez.
Ah non, j'ai adoré ce double sprint de Max Alain Gradel face au camion Daniel Alves. Et la peur que j'ai, alors que Daniel Alves de toute façon jouera, il n'y a même pas discuté évidemment. Et là,
exact.
Là, moi j'ai des interrogations sur les latéraux, ça évidemment comme
Daniel
tout le monde.
Qui a perdu beaucoup de ballons.
En revanche, devant c'est costaud parce que Cavani va revenir, Neymar, Mbappé. Et Di Maria, ça vous fait quatre mecs quand même hors niveau.
Évidemment, il y a une chose qu'on ne retirera jamais à Daniel Alves, c'est l'expérience, le mot qu'on a utilisé beaucoup. Ça apportera encore plus que d'autres joueurs peut-être en Ligue des Champions.
Et puis quand vous êtes dans le vestiaire, vous êtes entraîneur, vous pouvez pas mettre Daniel Alves sur le terrain, sur le banc. Alors vous savez que c'est déjà le patron du vestiaire.
Mais après, c'est vrai que ce Daniel Alves, Cristiano Ronaldo, et on sait que Ronaldo en Ligue des Champions, c'est pas le même qu'en Liga. Ça, c'est un duel qui va être tellement passionnant.
Eh bien,
et dangereux pour Daniel Alves.
Et regardez son regard. Et on sent l'homme qui est déjà plongé dans le Real.
Il est déjà dans son match. Mais là, il va y avoir un feuilleton Real PSG qu'on va suivre sur RFI. D'autant que le match sera à suivre en direct et en intégralité avec Eric Mamrut et Pierre Chaperon mercredi du Beau Monde au Santiago Bernabéu. Et d'ailleurs, pour maintenir une forme d'équilibre, là, on a parlé du Paris Saint-Germain et là, on va parler du Real Madrid.
Marcelo va a pasar a velocidad. Allá va el brasileño que mete en la diagonal retrasada a Cristiano Ronaldo. ¡Gol del Real Madrid! El Real Madrid ya está ganando 2-0. Remate por parte de Cristiano Ronaldo. ¡Gol del Real Madrid! Solo y su alma se mueve dentro del área Cristiano Ronaldo.
Cristiano logró abrir con Bale, prepara el zurdazo, Rulli la soltó, le quedó a Cristiano. ¡Gol! Cristiano marca el 5-1.
La force, el tapel.
Alors après le réveil de la force intergalactique, celle de Star Wars, celle des Jedi, le possible réveil des galactiques tout court en football du Real Madrid, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers qui ont marché sur les basques de la Real Sociedad ce week-end, succès 5-2 grâce notamment à un triplé de la vedette portugaise. Est-ce un message fort? Est-ce un message que les Parisiens doivent entendre? Est-ce un véritable réveil, un sursaut? Ou bien est-ce comme d'habitude un pétard mouillé auquel nous a habitué le Real Madrid?
Oui, il y a eu des pétards mouillés ces dernières semaines, ces derniers mois, et d'ailleurs une sale période pour le Real, hein, avec des matchs nuls concédés face à des équipes de deuxième partie de tableau. Mais là, à réussir, malgré tout, il y avait 4-0 à la mi-temps, hein, avec du Kroos, niveau, avec Cristiano également.
Sur la première mi-temps, tout a marché.
Ah, mais vraiment, non, c'est un message extrêmement fort. Et puis juste Cristiano Ronaldo, qu'on critique, on va dire à juste titre, en tout cas par rapport aux performances qu'on a connues de lui. Je rappelle qu'au moment où nous parlons, il a déjà marqué plus que la saison dernière au même moment. Et effectivement, on a l'impression qu'il marque très peu, mais l'année dernière, il avait marqué moins à la même époque. C'est vous dire que oui, Cristiano Ronaldo, en tout confondu, toute compétition confondue, c'est un but de plus déjà. C'est vous dire que Cristiano Ronaldo est toujours présent.
Ouais, mais c'est parce qu'il marque beaucoup en Ligue des Champions. Justement.
Ça va rassurer les supporters.
Non, mais moi, je trouve que défensivement, quand même, il y a des lacunes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que visiblement, physiquement, ils étaient prêts. Parce que physiquement, le pressing qu'ils ont mis en première mi-temps, contre une équipe, faut pas l'oublier, 9 défaites sur les 12 arrêts, quelque chose comme ça. C'est Dijon, hein. Donc, bon, faut remettre les choses dans leur contexte. Non, mais c'est important. Équipe française,
c'est
Rennes, c'est Valladolid, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est quasiment ça. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est l'impact physique qu'ils ont mis sur les joueurs de la Sociedad. C'est-à-dire que là, on a senti qu'il y avait du rythme physique. Après, les buts, parce qu'il faut pas oublier que Ronaldo, il s'est créé un paquet d'occasions, même quand ça marchait pas. On a souvent discuté ici. Moi, je le trouvais pas à la rue. C'est-à-dire les occasions, il s'est créé. Des fois, c'était poteau, le gardien, etc. C'était pas quelqu'un qui faisait n'importe quoi. Donc là, on se rend compte que devant, ça peut refonctionner comme avant. Mais le petit défaut qu'ils ont, j'ai l'impression, c'est à la perte de la balle. Ils ont quand même des déséquilibres incroyables défensivement. Et que là, vous avez des joueurs de la vitesse de Neymar, Mbappé, peuvent profiter.
C'est une équipe qui on avait déjà parlé d'un réveil du Real il y a pas si longtemps. Une victoire 4-1 face à Valence.
Ouais.
Et derrière, le Real avait rechuté, avec notamment une élimination en Coupe du Roi contre les Ganes.
De toute façon, tu dis, c'est un message envoyé au Paris Saint-Germain. Quand bien même ils n'auraient pas gagné 5-2 contre la Real Sociedad, le PSG les aurait pris au sérieux parce évidemment. Que c'est le Real Madrid.
Évidemment, Ronaldo, mais est-ce que c'est un bon indicateur de la forme de ce Real Madrid en difficulté cette saison?
C'est très bonne chose pour le Real d'avoir gagné, d'avoir fait cette première mi-temps où tout a marché. Tu parlais de Ronaldo, Marcelo a été monstrueux et Dieu sait qu'il fait partie de ceux qu'on peut pointer du doigt. Mmh. Voilà. Après, comme le disait Hervé, hein, c'était la Real Sociedad en face. C'est une équipe qui concède des occasions, qui pour moi n'avance pas non plus avec des certitudes terribles. Bale ne jouait pas, Casemiro ne jouait pas. Et bizarrement, je trouve que quand cette équipe joue avec Gareth Bale, elle est moins forte. qu'elle ne l'est que quand elle est soit avec Isco, soit avec Asensio, Vasquez. Donc voilà, mais de toute façon, le Real fait une saison moyenne, il est pas sûr, on va dire, mathématiquement d'être en Ligue des Champions la saison prochaine, il est déjà éliminé en coupe, il a pas fini premier de sa poule en Ligue des Champions. Donc c'est sur ce match-là qu'il peut créer un tournant et se remettre dans le sens de la marche.
Et ce qui est terrible au final, c'est que vous allez avoir des appréciations définitives sur la saison des deux clubs après ce match-là. Mmh. C'est en huitième de finale, alors que c'est deux équipes qui auraient pu se rencontrer en demi-finale ou finale, ça c'est le tirage au sort. Et une équipe éliminée, imaginez PSG éliminé, même difficilement, même après des matchs incroyables, on va dire, ah ben ils ont raté leur saison. C'est quand même assez terrible, je pense.
Bon, ça interroge aussi un petit peu sur le niveau des championnats, parce que on dit la Ligue 1, c'est pas un bon révélateur pour le PSG. Là, on dit c'est la Liga, c'est un bon révélateur pour le Real Madrid.
Oui, mais encore une fois, la concurrence est aussi présente. On parlait de l'Angleterre tout à l'heure. Vous avez le Barça, vous avez d'autres équipes qui sont là aussi. Valence, Séville,
l'Atlético.
Là, on a cité donc 5 clubs déjà en haut de tableau. Le PSG, pardon, mais il y a le PSG et les autres. Donc oui, effectivement.
Effectivement,
la Liga est révélatrice de la. Ou du niveau moindre du Real Madrid aujourd'hui.
De toute façon, c'est l'une des clés, hein, peut-être tactique de cet avant-match Real Madrid Paris Saint-Germain. La clé,
ça va être assez simple. On verra comment sera Neymar déjà. Parce que si Neymar il vous porte l'équipe, ça va être autre chose.
Mais il a presque été buteur. Hein. Contre
Toulouse. Il a failli.
Finalement, le but a été accordé au défenseur toulousain contre son camp. Et le Real PSG, ce Real PSG, évidemment, on continue d'en parler demain et puis mercredi, ici même, autour de la table de Radio Foot International. Très bonne soirée sur RFI.